Bonjour et bienvenue à cette série de web émissions McGill à vos côtés en soutien aux familles et aux aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour la démence et fondatrice du programme de formation sur la démence de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le docteur José Morel de la division de gériatrie et le docteur Serge Gauthier, professeur émérite, anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs. McGill à vos côtés est parrainé par le programme d'engagement communautaire d'Amelia Saputo pour les soins de la démence. Le programme de formation sur la démence de McGill offre une gamme complète de ressources gratuites pour éduquer et soutenir les personnes atteintes de la maladie, les proches aidants, les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et le grand public. Un de nos ressources le plus important est le guide d'accompagnement. C'est disponible pour télécharger gratuitement. Il est disponible aussi en 8 langues différentes. Vous pouvez obtenir une copie imprimée par Amazon au coût de 20 $ qui va aller soutenir notre programme. Alors, je vous encourage vraiment de regarder cette ressource sur notre site web. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter du sujet « Vieillir en santé avec son cerveau ». Mon invité est le docteur Serge Gauthier, le célèbre neurologue, un de mes très grands collègues. Docteur Gauthier est un neurologue clinicien spécialisé dans le développement de nouveaux outils de diagnostic et de traitement pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il est co-responsable universitaire de notre programme de formation sur la démence et professeur émérite en neurologie et psychiatrie à l'Université McGill. Le docteur Gauthier a été directeur du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill de 1986 à 1997. Il a été investi de l'Ordre du Canada en 2014 et de l'Ordre national du Québec en 2017 pour avoir contribué à l'avancement de notre compréhension de la maladie d'Alzheimer et la démence et pour avoir favorisé le développement de réseaux de recherche. Alors aujourd'hui, le docteur Gauthier donnera un aperçu des recherches récentes qui montrent comment nous pouvons préserver la santé de notre cerveau en vieillissant. Bienvenue, docteur Gauthier.
Merci, Claire. Merci, Claire, de me donner cette occasion d'expliquer à notre audience certains principes de la prévention du vieillissement cérébral. On va utiliser la maladie d'Alzheimer comme modèle, mais on ne parlera pas aujourd'hui de démence, on parle de prévention de la démence. Alors, les sujets dont on va parler dans les quelques minutes qui viennent avec des diapos, ensuite on aura des questions ensemble, Claire, c'est l'histoire naturelle du vieillissement cérébral, l'information à partir d'études observationnelles, alors qu'est-ce qu'on peut voir chez des gens qui vieillissent dans différents pays, et qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention? Est-ce qu'il y a des traitements qui ont été essayés dans certains pays, incluant le Canada, pour aider les gens à bien vieillir? Et enfin, on va avoir une discussion sur la prévention. Est-ce que c'est bon pour le public en général ou pour les individus? Ben, la réponse, ça va être les deux. Alors, allons-y pour l'histoire naturelle. On va utiliser des illustrations que les gens vont retrouver dans notre guide que vous avez montré tout à l'heure. C'est des illustrations... Une image vaut mille mots parfois, là. Alors ici, on a une personne, dans la soixantaine peut-être, qui va bien. Elle fait ses téléphones en même temps qu'elle lit son courriel, et puis elle a fait du thé, et puis tout va bien. Maintenant, si on utilise cette illustration de l'histoire naturelle dans la maladie d'Alzheimer, on va voir ce qui arrive à cette dame si elle a un vieillissement cérébral. Alors, habituellement, quand on a la maladie d'Alzheimer, avant d'avoir un stade de maladie qui est démence, c'est-à-dire une atteinte fonctionnelle importante, il y a quand même des étapes avant. Et c'est illustré ici à gauche par humeur. Alors, quand on vieillit avec un petit ralentissement parfois de notre capacité à réfléchir, on peut être inquiet, un peu prompt, etc. Alors, il y a un petit changement pas spécifique de l'humeur qu'on peut voir chez beaucoup de gens. Ensuite, il y a une atteinte cognitive, alors c'est mémoire, chercher ses clés, chercher son chemin, etc. Ensuite, on a besoin d'aide de plus en plus, autonomie fonctionnelle, et on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a habituellement une autre phase de troubles de comportement et d'humeur qui est très sévère dans l'Alzheimer, mais qui s'améliore avec le temps, et enfin une phase plus qui ressemble au Parkinson, en fin de maladie. Alors, on va utiliser ça comme squelette, si vous voulez, pour parler du vieillissement normal. Alors, la dame en question. Ah, on la voit deux fois. OK. Excusez-moi, c'est moi qui vais dans la mauvaise direction. Ah, la voilà. Alors là, elle a une pause devant la machine pour aller chercher de l'argent à la banque. Tu sais quoi, mon mot de passe? Ça arrive à tout le monde, surtout s'il y en a beaucoup de mots de passe, puis il faut les changer périodiquement. Mais elle sait où trouver le mot de passe. Alors, est-ce que vous êtes inquiet pour elle? Non. Parce qu'elle a des plaintes subjectives. Elle s'inquiète un petit peu, mais personne d'autre s'inquiète. Alors, il y a un nom pour ça dans la recherche scientifique, Subjective Cognitive Decline. En français, ça serait plainte subjective ou déclin subjectif du fonctionnement de sa mémoire. Tout le monde va se reconnaître, là. Alors, c'est une pause. Pourquoi je suis descendu au sous-sol? Je réfléchis. Ah oui, j'étais en train de mettre la table, j'ai besoin d'une bouteille de vin. Ou c'est quoi son nom déjà? Oui, je m'en souviens parce que je l'ai vu la dernière fois dans tel endroit, puis on fait un lien, puis ça vient. Ou on mélange les noms des gens, comme ça, par accident, ou les mots, ça sort mélangé. C'est tout normal avec l'âge. Et notez les mots clés ici, subjective, c'est juste vous qui êtes inquiet un peu. C'est une plainte ou un déclin, c'est pas une perte. Et puis, ça peut être réversible parce que ça pourrait être associé à des difficultés pour entendre. Vous avez pris un coup hier, vous avez mal dormi, vous avez un petit peu de dépression. Plein, plein de choses peuvent expliquer ça. OK. Maintenant, si vous êtes inquiet subjectivement, ça pourrait changer un peu votre humeur et votre comportement. Et il y a un nouveau nom pour ça. C'est déclin comportemental léger. Alors, en anglais, c'est mild behavioral impairment. C'est un psychiatre de Calgary qui a inventé le terme et c'est reconnu maintenant à travers le monde comme utile. Ça reflète un petit peu les changements qu'on vit tout le monde, surtout en pandémie ou en post-pandémie avec les taux d'intérêt qui fluctuent. Alors, parfois une perte de motivation, on est un petit peu prompt. Si quelqu'un nous fait un conseil, je suis capable. Parfois, on n'arrête pas de bouger, on ne peut pas rester tranquille, assis, on est moins à l'aise avec des inconnus, ou même des fois, on a des idées qui nous dérangent. Votre conjoint, peut-être qu'il a une liaison, des idées qui vous dérangent. Alors, tout ça a été mis sur un questionnaire qui est disponible en ligne. Alors, si vous voulez vous tester ou tester vos proches, allez-y. C'était développé pour être un outil qu'on remplit soi-même. Alors, allez chercher MBI-C sur Google en français, puis vous pourrez vous amuser à répondre à ça. N'oubliez pas que dans la vie de tous les jours, on a tous des fluctuations d'humeur et plus ou moins de comportement. C'est ça, être vivant. Alors, il ne faut pas dramatiser si vous trouvez des petites choses. Alors, si la personne a maintenant des plaintes, mais on peut constater avec un test papier-crayon qu'il y a un déclin mesurable. Là, on va parler d'une étape qui s'appelle trouble ou déclin cognitif léger. Il y a un terme qu'on utilise au Québec, c'est trouble neurocognitif léger. En anglais, c'est MCI, Mild Cognitive Impairment. Alors, ce serait quelqu'un qui, comme la dame ici, a oublié quelque chose et puis. Sa fille a remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ils sont allés consulter une infirmière ou un médecin. Ils ont fait le MoCA. Ça, c'est un test que vous pouvez aussi aller chercher en ligne. MoCA, Montreal Cognitive Assessment. C'était développé par un neurologue de la rive sud de Montréal, Dr. Nasreddine. Et c'est utilisé à travers le monde entier. C'est très utile pour le dépistage ou le repérage de troubles cognitifs légers. Et je vous laisse regarder, vous pouvez vous essayer en ligne. On va trouver d'autres variations. N'ayez pas peur. Si vous pratiquez avec cette version-là, on va avoir d'autres animaux puis d'autres mots quand on va vous tester. Vous pouvez même contribuer à la recherche. Alors, si vous allez sur info@mocatest.org, vous pouvez être volontaire pour tester le Moca en ligne. Parce qu'une des choses qu'on essaie de développer, c'est des outils qu'on peut faire à distance, incluant le MBIC pour l'humeur comportement, le MOCA pour tester la mémoire et capacité à réfléchir vite, et aussi un questionnaire sur votre vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes autonome? Si on pouvait faire une combinaison de trois tests, en plus d'une prise de sang, ou envoyer un échantillon de votre muqueuse buccale pour faire un test génétique, ça pourrait faire un outil de dépistage pour voir votre niveau de risque. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, Moca, vous avez noté, si vous voulez participer à la recherche, info@mocatest.org. Et tous ces renseignements vont être fournis après dans notre site au département d'éducation sur la démence de McGill. Alors, trouble cognitif léger, parce que votre MOCA, vous avez 26 ou moins sur 30, ça pourrait progresser vers une étape de la maladie d'Alzheimer où vous avez besoin d'aide pour votre vie de tous les jours. Là, on parle de démence légère, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est couvert dans d'autres webinaires que Claire et moi, on a fait. Alors, les troubles neurocognitifs majeurs, c'est le nouveau terme au Québec pour démence, déclin progressif habituellement, de mémoire et autre chose, ou autre chose et autre chose. Il faut au moins deux fonctions cognitives atteintes et ça dérange dans la vie de tous les jours, etc. Et on a ici, vous voyez les flèches qui se déplacent vers la droite, la flèche rouge, une atteinte progressive des fonctions intellectuelles qui dérangent dans la vie de tous les jours. Alors, pour résumer cette histoire naturelle, il y a des symptômes prémonitoires qui font partie du vieillissement normal, mais qui ne sont pas nécessairement annonciateurs de démence plus tard. Par contre, après que vous avez eu votre évaluation avec votre médecin de famille pour vous rassurer que vos difficultés à vous concentrer et puis vos difficultés à vous rappeler du nom ou du mot de passe, ce n'est pas de la démence, ça va vous motiver, je pense, pour participer à la recherche sur la prévention ou utiliser l'information déjà disponible dans votre vie de tous les jours. Okay? C'est le message d'aujourd'hui. Maintenant, les études observationnelles avec des grandes populations. Pour les mettre en contexte, permettez-moi de prendre juste 2 minutes pour vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau avec l'âge. Parce que la pathologie associée à l'Alzheimer, qui implique deux protéines et autre chose, ça débute bien avant d'avoir des symptômes et bien avant d'avoir la démence. On parle de 10 à 20 ans. Tranquillement dans le cerveau, il y a du vieillissement sans symptômes. Et puis, à un moment donné, les symptômes émergent tranquillement. Ça pourrait être après une anesthésie, par exemple, ou après un coup à la tête, ou un petit AVC, un petit accident vasculaire cérébral, qui met en évidence que vous aviez un vieillissement progressif qui était silencieux. Et ce qu'on comprend de la maladie d'Alzheimer pour le moment, c'est qu'il y aurait au début des dépôts de la protéine qui s'appelle bêta-amyloïde dans le cerveau. Si vous avez seulement ça, il n'y a pas de problème, vous allez mourir à 95 ans de d'autres choses. Parce qu'on voit effectivement chez des gens de 90 ans et plus, beaucoup de dépôts d'amyloïdes, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de symptômes. Il faut autre chose. Donc, la protéine au milieu, ce qui est marqué p-tau, c'est phospho-tau. La protéine tau, c'est la protéine dans les cellules nerveuses qui aide à maintenir un peu comme le squelette interne et qui aide à transporter les produits fabriqués de la cellule vers les synapses. Et avec l'âge, surtout dans certaines régions qui ont rapport avec la mémoire, il y a un vieillissement accéléré de ces cellules nerveuses. Et amyloïde plus changement phosphotau, là, on commence à parler de vieillissement anormal qui peut mener à des symptômes. Mais il faut en plus autre chose. Il faut un troisième élément qui semble être inflammation. Alors, vous voyez à gauche, en rouge, activation microgliale. C'est une neuro-inflammation silencieuse dans le cerveau. Et on s'en doutait parce que c'était découvert il y a 30 ans par des spécialistes à Vancouver. Si vous avez de l'arthrite chronique, et que vous prenez des médicaments pour l'arthrite, des vieux médicaments, indométacine, naproxène, ceux qui donnent des problèmes d'estomac, vous avez une réduction du risque d'Alzheimer qui est importante. On parle de 40% de réduction de risque. Ce n'est pas une raison pour prendre ces pilules-là si vous n'avez pas d'arthrite. Les risques d'hémorragie gastrique sont sérieux. Mais c'était un indice qu'il y avait une composante de neuroinflammation dans le vieillissement du cerveau. Et si on pouvait la reconnaître au moment où elle débute, on pourrait traiter avec des médicaments déjà disponibles pour l'inflammation. Et vous voyez que bêta-amyloïde, inflammation, phosphotau, ça évolue sur 10 à 20 ans avant d'avoir une perte de neurones. Le cerveau est plus petit, on peut le voir au scan. Et enfin, des symptômes. Autrement dit, on a une capacité d'intervention pour la prévention pendant une période de 10 à 20 ans, ce qui est considérable. Alors, ça, c'est un diagramme que le docteur Rosanetto, mon partenaire au travail au Centre McGill d'études sur le vieillissement, a mis au point pour illustrer le fait que le vieillissement, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui sont additifs. Et pour la prévention, c'est mieux d'agir sur plusieurs facteurs en même temps que sur un seul. Alors, on commence par la gauche. Si vous avez des mauvaises habitudes de vie, comme vous n'êtes pas actif physiquement, vous êtes paresseux, vous mangez mal. On va revenir là-dessus dans quelques instants. C'est quoi les mauvaises habitudes qu'on peut changer? Ensuite, vous avez des problèmes cardio et cérébrovasculaires. Alors, si vous avez de l'athérosclérose au cœur, vous avez de l'angine. Si vous avez de l'athérosclérose dans les carotides, vous avez des ischémies cérébrales transitoires ou un petit AVC même. C'est un facteur qu'on peut modifier. Si vous avez un problème d'élimination des déchets, alors en anglais, c'est le terme clearance, puis il n'y a pas vraiment d'équivalent français. C'est la capacité d'enlever du cerveau les produits qu'on fabrique et qui ont besoin d'être éliminés dans le liquide céphalo-rachidien. Et ça, c'est le meilleur moment pour s'en débarrasser. C'est pendant qu'on dort, surtout pendant la période de sommeil paradoxal, le REM sleep, pendant qu'on rêve. Alors, c'est bien important la nuit d'avoir des nuits reposantes, 6 à 8 heures, puis d'avoir des périodes de sommeil paradoxales. Et c'est le moment où le cerveau élimine le gros des déchets comme la bêta-amyloïde. Ensuite, la réponse inflammatoire, j'en ai déjà parlé. La génétique. Bon, on ne peut pas changer nos parents, mais je peux vous rassurer que si vous avez hérité d'un côté de la famille un gène qui augmente le risque, qui s'appelle APOE4, découverte de jus de poirier et notre équipe ici à McGill, on peut compenser ce risque génétique qui vient d'un côté de la famille avec l'ensemble des méthodes de prévention dont on parle aujourd'hui. C'est bien documenté. Par contre, si vous avez hérité des deux côtés de la famille, 4-4, ce gène qui augmente le risque, ce serait un autre niveau de protection qui pourrait impliquer un médicament qui est encore en développement. Et enfin, comorbidité. Ça, c'est important parce qu'avec l'âge, on a tous des petits bobos. On peut avoir un peu d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque. On a un peu d'arthrite, on a mal un peu, prend des pilules pour la douleur. On est un peu dur d'oreille. Alors, vous voyez une accumulation de petits bobos qui font que ça amplifie l'effet du vieillissement du cerveau. Alors, le message, c'est aller une fois par année chez votre médecin avec votre liste de bobos et assurez-vous qu'il ou elle va prendre le temps de corriger tout ce qui peut être corrigé dans vos habitudes et vous pouvez utiliser des bonnes habitudes de vie dont on va parler maintenant. Alors, une autre option, c'est d'avoir un bon check-up en participant à la recherche. Et c'est une initiative du Centre McGill d'études sur le vieillissement qui date maintenant d'à peu près 8 ans. C'est une cohorte qui s'appelle BioVie, triade en anglais. C'est des volontaires comme vous peut-être qui n'ont pas de symptômes cognitifs, qui sont en bonne santé, pas de plaintes, ou qui ont des plaintes légères, subjectives. Ah, c'est quoi son nom déjà? Ou qui ont fait des oublis puis ont déjà eu peut-être un petit test de mémoire qui n'était pas parfait. Donc, troubles cognitifs légers, on vous prend. Et puis même si vous avez une démence légère, même si elle est atypique, surtout si vous avez moins de 65 ans, allez-y. Parce que vous allez avoir un bilan complet du cerveau, ponction lombaire, prise de sang, et ça va nous donner des indices précieux sur comment les gens vieillissent normalement. Et on a déjà découvert une prise de sang qui va nous aider à voir ce qui se passe. Je vais vous l'illustrer dans un instant. Ce qu'on peut mesurer dans le sang reflète beaucoup ce qui se passe dans le cerveau. Ça, c'est vraiment important pour la clinique et peut-être le suivi de nouveaux traitements à venir. Alors, vous avez juste à contacter Jenna au 761-6131, extension 6321, et puis vous lui parlez, et puis elle va voir si vous pouvez participer à cette recherche. Un exemple d'une personne qui participait à ce programme, un monsieur de 80 ans qui avait des symptômes qui ressemblaient à une maladie d'Alzheimer au stade léger. Mais vous voyez l'image en haut, il n'y a pas de rouge du tout, il n'y a pas d'amyloïde dans son cerveau. Il ne peut pas avoir l'Alzheimer, il n'y a pas d'amyloïde dans son cerveau. C'est une condition de la maladie. Dans le milieu, vous voyez un scan où il y a du rouge. Ça, c'est la protéine tau. Il y en a beaucoup, lui, plus que la normale. Et en bas, vous voyez une IRM du cerveau où il n'y a pas beaucoup d'athérosclérose. Donc, ce n'est pas vasculaire. Alors, on a réussi à faire chez ce monsieur un diagnostic personnalisé que ses troubles de mémoire sont dus à trop de protéine tau dans certaines régions. Alors, son traitement, c'est un médicament pour la protéine tau, qui est évidemment expérimental encore, mais il n'y a pas besoin de médicament pour l'amyloïde. Alors, c'est ce qu'on vise éventuellement, c'est d'avoir un diagnostic personnalisé à quelques stades de vieillissement du cerveau que vous soyez pour vous offrir un traitement ciblé, un peu comme on le fait dans certains types de cancers. La fameuse prise de sang. Alors, ça, c'est un coup de chance. Les bénévoles qu'on a eus depuis 8 ans, on a envoyé un échantillon de leur sang en Suède. Et les médecins là-bas ont des équipements qui ont permis de voir. Vous voyez dans la boîte en rouge à gauche, il y a une petite boîte bleue, là. C'est le niveau dans le sang de nos volontaires qui ont de l'amyloïde et de la protéine tau dans leur cerveau au scan. Mais on le voit dans le sang. Et on sait maintenant que la corrélation est remarquable. Alors, ça va devenir un test de dépistage si vous avez des symptômes légers. On va mesurer le niveau de ces protéines qui s'appellent P-tau, qui ont des numéros, 181, etc. Et ça va nous permettre de faire un diagnostic précoce de changement dans le cerveau sans faire de scan, sans faire de ponction lombaire. Alors ça, c'est la recherche à Montréal qui a permis ça. Ensuite, je vais vous donner 2 exemples de recherche épidémiologique et interventionnelle. Alors, le grand document à lire, c'est ce qu'ils appellent de Lancet, le journal médical Lancet Commission sur la prévention de la démence. Malheureusement, ce n'est pas disponible en anglais, mais vous allez voir, c'est assez simple l'information. C'est 12 facteurs de risque modifiables par rapport au vieillissement du cerveau. On les passe en commençant en haut, le diabète. Alors, si vous avez un diabète sucré, soignez-le bien, parce que c'est un facteur accélérant un peu le vieillissement du cerveau. La haute pression, surtout entre 40 et 65 ans, si vous en avez, traitez-la. S'il faut prendre une pilule, prenez-la. L'obésité, on est tous un peu en surpoids, il ne faut pas se le cacher, mais est-ce qu'on peut contrôler ça, surtout entre 40 et 60 ans, ce serait l'idéal. On n'est pas très actif physiquement, alors faites comme Claire et moi, allez chercher un chien ou promenez le chien du voisin, bougez. De préférence avec d'autres mondes. Toutes ces activités, si vous les partagez avec quelqu'un, c'est valeur ajoutée. Si vous avez un peu d'éléments dépressifs, traitez-les. Fumer, évidemment, personne ne fume maintenant, tant mieux. L'éducation. Alors, ça, c'est reconnu au niveau des populations que si vous avez moins de scolarité, vous avez plus de risques d'avoir de la démence 70 ans plus tard. Heureusement, au Canada, c'est moins un problème, mais dans des régions rurales ou des régions éloignées, surtout dans certains pays comme la Chine, c'est encore un problème. Si on peut monter le niveau de scolarité générale, ça va aider à bâtir une réserve cérébrale. C'est un terme utilisé, une réserve cérébrale qui va vous protéger jusqu'à un certain point contre le vieillissement. Ce qui est nouveau, c'est la surdité partielle. Ça a été une surprise et c'est vraiment reconnu partout que si vous avez des problèmes d'audition, il faut les traiter parce que c'est un facteur accélérant, d'une certaine façon, le vieillissement du cerveau. Trauma crânien, tout le monde comprend que si vous avez des coups à la tête de façon répétée, c'est pas bon. Alors, je comprends pas pourquoi il y a encore de la boxe. Les neurologues sont contre ça, mais en tout cas, c'est vrai pour les sports de contact dans nos équipes de hockey, de football. Il faut diminuer les commotions cérébrales le plus possible. Trop d'alcool, ça c'est un débat. On va revenir là-dessus probablement avec Claire. Il y a un débat de société actuellement. Est-ce qu'un verre par jour, en moyenne, c'est suffisant? Probablement. Par contre, si vous avez certains facteurs de risque pour certains cancers, comme le côlon, peut-être que l'alcool est un facteur aussi de risque accélérant. Donc, il y a peut-être plusieurs raisons de ne pas prendre d'alcool. Mais pour la personne moyenne qui est en bonne santé, qui agit sur les autres facteurs de risque et de protection, un verre d'alcool par jour, c'est probablement correct. L'isolement social, malheureusement, on a passé à travers la pandémie. Et maintenant, il faut sortir puis voir du monde. Et la pollution atmosphérique, ça, c'est une surprise. C'est sorti très fort comme facteur de risque. C'est moins un problème au Canada, mais ça pourrait le devenir un jour. Mais des pays comme l'Inde et la Chine, c'est épouvantable, le niveau de pollution atmosphérique. Et c'est potentiellement réversible. Je vous souligne à droite la boîte qui est marquée « risque, facteur de risque nouveau ». Il y en a un, c'est « sleep disturbance ». Alors, le mauvais sommeil pourrait être un facteur accélérant. Peut-être parce que vous avez moins de capacité d'éliminer les protéines toxiques du cerveau. Notez aussi « impaired oral health », ça c'est des problèmes de gingivite chronique et c'est fréquent dans nos résidences de personnes âgées. On ne va pas bien prendre soin de leur hygiène buccale et les bactéries qui sont dans les gencives, si elles ne sont pas bien contrôlées avec des brossages réguliers puis peut-être du gargarisme, ces bactéries pourraient être un facteur accélérant du vieillissement en stimulant peut-être une neuro-inflammation. C'est un des facteurs potentiellement contrôlables du vieillissement. C'est bien traiter ces gencives. Alors, deux exemples d'études plus petites. Ici, c'était aux États-Unis, à Framingham. Ils ont regardé des facteurs de risque pour le vieillissement cérébral. Et si vous avez le diabète, plus vous n'êtes pas actif physiquement, plus vous êtes obèse chez les Américains, vous triplez essentiellement votre risque de démence. Et ça se comprend. Ce sont des facteurs de risque vasculaire. Alors, ce qui n'est pas bon pour le cœur n'est pas bon pour le cerveau, mais le contraire est vrai. Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Une étude en Chine, avec beaucoup de monde, sur 10 ans, en haut de 60 ans, et la bonne nouvelle, c'est si vous avez de bonnes habitudes de vie, vous diminuez la perte de mémoire associée à l'âge sur 10 ans. Et une autre étude, basé sur ces données qui va être publiée bientôt, vous diminuez aussi le risque de démence, ce qui est logique. Alors, le message, c'est mieux d'avoir plusieurs bonnes habitudes de vie que juste une. Alors, une bonne diète pour un Chinois, ça pourrait être aussi une bonne diète pour nous. Moins de viande, plus de poisson, même si ça coûte cher, plus de fruits, etc. Exercice physique régulier, c'est sérieux. Ça a toujours été une trouvaille dans tous les pays. Il faut bouger. De préférence avec d'autres mondes, c'est toujours mieux de faire ces activités avec d'autres gens, d'avoir une interaction sociale. Contacts sociaux, deux fois ou plus par semaine. Alors, ça peut être jouer aux cartes, ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous aimez lire, ben, c'est mieux de faire partie d'un club de lecture pour échanger avec des gens. Actif au point de vue cognitif aussi, ça peut être ce que vous aimez, jouer aux cartes, etc. Écoutez la conférence d'aujourd'hui. Pas de tabac. Pas d'alcool. Ça, c'est un peu brutal, leur critère en Chine pour cette étude-là, mais c'était ça. Le tabagisme est encore un problème sérieux en Chine. Pas d'alcool, c'est ce qu'ils ont décidé. Nous, on s'en tient encore à un verre par jour en moyenne, s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque à considérer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont confirmé que si vous avez un facteur héréditaire d'un côté de la famille, APOE4, un côté de la famille, ce facteur de risque héréditaire est comme annulé, compensé par les bonnes habitudes de vie. Et ça a été confirmé dans d'autres études à travers le monde. Pour résumer, il y a une nouvelle définition du vieillissement cérébral qui est en recherche, ATN, amyloïde, tau et neurodégénération. Et il y a une prise de sang qui va peut-être nous aider à préciser si vous avez déjà ces marqueurs dans le cerveau. Il y a des études observationnelles qui montrent qu'il y a des facteurs de risque et de prévention. Et c'est mieux d'intervenir sur plusieurs facteurs en même temps si vous avez des risques. Et c'est mieux d'avoir plusieurs bonnes habitudes en même temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de façon prospective? Alors, vous avez un groupe de personnes âgées en Finlande qui, pendant plusieurs mois, ont accepté d'avoir un ensemble de traitements qui impliquaient des exercices physiques, un entraînement cognitif avec des petits groupes, une diététicienne qui vérifie si vous mangez assez de poisson. En Finlande, ça doit être trois fois par jour au lieu de deux. Et puis, une surveillance des facteurs de risque vasculaire. Alors, un gros package par rapport à un traitement usuel en Finlande. Et tout le monde s'est amélioré, vous devinez, avec un bon traitement comme ça. Mais il y avait une différence En plus, si vous avez l'entraînement cognitif combiné à l'entraînement physique et une surveillance de vos facteurs de risque vasculaire, alors la capacité générale de réfléchir 25 % de plus, capacité de prendre des décisions rapidement 85 % de plus, 83 % de plus, c'est beaucoup, rapidité de capacité à réfléchir 150 % davantage, puis mémoire 40 % davantage. Mais ce qui est la grosse surprise, c'est que si vous suivez ces gens-là par après, après l'étude, alors ceux qui ont eu l'entraînement combiné par rapport au traitement usuel, il y avait une amélioration persistante sur plusieurs aspects de la vie. Puis on parle de gens ici qui vieillissent, donc on est dans les 80 ans et plus, dans les années qui suivent le traitement. Alors, il y avait un avantage sur même les facteurs de risque vasculaires, les crises cardiaques, il y en avait moins si vous avez eu l'entraînement complet, et maladies chroniques associées au vieillissement, il y en avait moins, etc. Alors, ce programme qui s'appelle Finger, parce que ça vient de Finlande, est modifié maintenant pour essayer des médicaments qui sont connus, comme par exemple pour le diabète, le metformin, qui est un des vieux médicaments pour le diabète, mais il est connu comme aidant, même chez les non-diabétiques, la capacité du cerveau à utiliser le sucre et puis l'oxygène et puis fabriquer des choses qui sont bonnes pour la mémoire et l'attention, etc. Alors, dans un des programmes en cours actuellement, ils ont l'entraînement physique et cognitif et le metformin est utilisé en plus ou un placebo, pour voir s'il y a une valeur ajoutée chez des gens qui sont plus à risque au départ. Alors, ce n'est pas des gens qui ont une démence, c'est des gens qui vieillissent, mais qui peuvent avoir des troubles de mémoire plus ou moins légers et peut-être aussi un facteur de risque vasculaire associé. Il y a moyen de calibrer le groupe au départ pour être sûr que c'est des gens qui n'en ont pas besoin de ce médicament-là. Mais il y a certainement des gens plus à risque à cause de différents facteurs vasculaires où ce genre de traitement est approprié. Alors, histoire à suivre. Pour le Canada, CAN-THOMS, c'est un programme qui évolue depuis 3 ans. L'étude initiale s'appelle Synergique parce que c'est une synergie, une combinaison de entraînement physique et entraînement cognitif. Beaucoup d'emphase sur l'équilibre à la marche. C'était une des priorités de l'équipe qui a fait ça. Et les résultats préliminaires sont encourageants. D'abord, c'est faisable. Même pendant la pandémie, il a fallu utiliser un entraînement à distance, les gens pouvaient faire leur exercice en ligne avec un coach. Ensuite, on pouvait tester à distance les résultats au point de vitesse de mémoire. Et des gens âgés avec plus ou moins de bobos. Et dans cette étude-là, il y avait aussi essayé la vitamine D comme supplément, mais ça n'a pas ajouté. Donc, si vous n'êtes pas déficient en vitamine D, vous n'avez pas besoin d'en prendre plus. L'équivalent à Montréal actuellement, c'est au centre EPIC. Alors, vous pouvez participer à un programme qui ressemble à Synergique avec la supervision du docteur Louis Bérère. Alors, vous voyez en bas à gauche, louis.bérère, B-H-E-R-E-R, à umontréal.ca. Et vous pouvez communiquer avec lui ou il y a un numéro de téléphone sur la diapo dont on va vous donner copie. Vous pouvez joindre à un programme structuré où vous avez traitement usuel très bon à l'Institut de cardiologie. Versus entraînement combiné, mémoire physique, exercice physique, surveillance de votre santé cardiovasculaire pour démontrer qu'il y a un bénéfice sur l'ensemble de votre fonctionnement intellectuel et aussi votre santé générale. Alors, dernière partie, c'est est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'on peut personnaliser l'approche? Alors, c'est les deux. On a, dans des rapports qu'on a préparés, Claire, José Moret, Dr. Rosanetto et moi, ce qui s'appelle le World Alzheimer Report 2021 et 2022, on a fait un recueil de la littérature pour nous demander aux gens ce qu'ils en pensaient, etc. Dans le rapport 2022, que vous pouvez avoir en ligne gratuitement sur le site ADI, qu'on va mettre aussi sur notre site d'information au programme McGill, on a un chapitre qui est spécifique sur la réduction du risque de démence. Alors, j'ai juste mentionné les titres ici. Malheureusement, ce n'est pas disponible en français, mais c'est un anglais qui est facile à lire parce que c'était prévu pour l'ensemble de la population à travers le monde qui serait intéressée à ces sujets. Et le point que je veux mentionner, c'est qu'on a des stratégies pour la réduction de risque pour des populations, comme par exemple augmenter la scolarité dans certains pays ou certaines régions, et des stratégies pour les individus, comme le dernier sujet, c'est prévention et traitement de la fibrillation auriculaire. Alors, si vous avez un problème cardiaque particulier, il faut y voir dès que c'est décelé et puis traiter à vie. Alors, pour résumer, la prévention est faisable pour les populations, mais ça prend des décisions au niveau des gouvernements et on espère que ça va se faire au Canada bientôt, et pour les individus. Et ce qui va venir d'ici, je dirais, 3 ans dans notre milieu, ce serait un nouvel type de clinique où, un peu comme on va pour un bilan cardiaque à 40 ans, pour voir si on a des risques de crise cardiaque, on fait du tapis roulant, puis si on a des risques, ben, on se fait dire « surveille ta pression » ou « traite ta pression », etc. Pour le cerveau, on pourrait le faire en même temps, je pense. Quel est votre risque, basé sur votre histoire familiale, votre niveau de scolarité, avez-vous des symptômes, etc. Et puis peut-être qu'il faudra le refaire à tous les 5 ans ou à tous les 10 ans. On espère pouvoir aussi le faire en ligne. Alors, c'est en cours de développement où on pourrait faire un bilan personnalisé. Vous le faites vous-même en ligne. Puis on vous donne un pointage de votre risque, de votre âge de cerveau réel, par rapport à votre âge chronologique. Dr. Stephen Grover à McGill travaille là-dessus. Justement, j'ai essayé son logiciel. Ça fonctionne très bien. Et ça reste à valider. Mais je vous prédirais que d'ici 3 ans, on pourra faire un bilan autant pour le cœur que pour le cerveau, ici dans notre milieu, et agir en conséquence. Mais il va falloir agir. Autrement dit, si vous avez 65 ans, puis on vous dit, ben, il faut que tu bouges, puis tu participes à un programme structuré d'exercice, ben, il faut le faire. C'est plus simple de prendre une pilule des fois, hein? Non, il faut bouger. Alors Claire, je vous retourne la balle pour les questions. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Dr. Gauthier. Vraiment, là, j'aurais quelques questions parce que vous avez une présentation très, très, très importante et très, très intéressante. La démence, c'est une maladie qui fait peur à beaucoup de monde, à beaucoup de gens. Si je peux retourner au début de votre présentation, quand vous avez parlé des plaintes subjectives, vous avez mentionné beaucoup quand nous prenons des pauses. Alors, je pense avant de dire, mais des fois, il y a des affaires, on a peur, je peux pas trouver mes lunettes, je perds toujours mes clés. Qu'est-ce qui diffère le vieillissement normal ainsi que le vieillissement anormal?
Oui, la réponse la plus simple à cette bonne question, c'est au moins vous savez à quoi ça sert vos lunettes puis vos clés. Et puis, oui. Vous avez peut-être des habitudes pour compenser. Autrement dit, vous allez toujours mettre vos clés au même endroit. En tout cas, c'est ce que je fais. Et puis, les lunettes, autant que possible au même endroit. Et puis, vous allez avoir des post-it, peut-être pour vous rappeler certaines choses à venir ou à faire. Et on compense. Alors, honnêtement, ce qui distingue normal de anormal, c'est qu'on peut compenser dans ces petites choses de la vie de tous les jours que vous avez bien décrites.
Et alors, moi, j'ai 55 ans et je trouve que je me fatigue plus facilement. Alors, après avoir fêté avec mes amis un samedi ou même après une grosse journée de travail, je me trouve fatiguée. Est-ce que c'est normal qu'en vieillissant, je veux me relaxer plus? Si j'avais le temps, j'aimerais prendre des sommeils l'après-midi. Mais je trouve que j'ai pas la même énergie que j'avais il y a 10 ans. Est-ce que ça, c'est normal?
Probablement. Ce n'est pas du tout ma spécialité, mais oui. Probablement que la réponse de quelqu'un comme un interniste ou un gériatre, ce serait de dire, écoutez, si vous avez besoin de faire une sieste, un power nap, faites-le. Mm-hmm. Ça se fait dans bien des pays en Europe. Il faut écouter son corps. Hein? Et puis, oui, on change avec les années et puis il faut s'adapter. Mais il faut aussi consulter, quand c'est possible, c'est pas facile, mais mm-hmm. consulter son médecin de famille parce qu'il y a des causes de fatigue qui sont réversibles. Ça peut être une anémie légère par manque de fer. Ça peut être bien des choses.
Et vous avez parlé aussi le déclin comportemental. Mais des fois aussi, il peut y avoir d'autres affaires qui peuvent ressembler à la démence. Okay? Les gens disent souvent, pourquoi prendre le temps d'aller faire une diagnose quand il n'y a pas de traitement? Okay? Est-ce que vous pouvez aborder un peu plus ce sujet? Si on trouve qu'on a plusieurs symptômes, pourquoi aller voir un médecin?
C'est une question importante parce qu'il ne faut pas hésiter pour aller consulter quand on a des symptômes ou un de nos proches a des symptômes, parce que ça peut être tout à fait réversible. Ça peut être des choses comme on prend des mauvaises pilules combinaison de médicaments pour l'estomac et pour la vessie qui ont un effet anticholinergique. Les pharmacies sont très bons, incidemment, pour ça. Ils ont un logiciel qui peut faire un total de ce qu'on appelle le fardeau cholinergique. Et vous pouvez demander à votre pharmacien, est-ce que je prends des médicaments qui sont mauvais pour ma mémoire? Il va vous le dire tout de suite. Vous pouvez aussi, avec l'aide de votre médecin de famille et de son équipe, voir s'il y a des petites choses qu'on peut corriger allant de l'audition à troubles de sommeil. Il ne faut pas se gêner. Il faut l'écrire, hein, la liste. Il ne faut jamais dépasser une page. Je vous le dis hein, comme médecin. Oui. Jamais dépasser une page de votre liste. Mais c'est bon d'être préparé. Et puis, si on n'a pas le temps de faire toute la page en une visite, il faut revenir.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la corrélation entre la surdité? Vous avez mentionné la surdité et la démence.
Oui, c'est nouveau comme corrélation. Et puis, c'est très important parce que beaucoup d'entre nous, avec l'âge, on a des problèmes pour entendre. Et même au stade un peu plus avancé de vieillissement cognitif, même au stade de démence légère, c'est important de la corriger. Parce que ça cause un isolement social, même chez les gens qui ont une démence. C'est sûr que les gens vont perdre leur appareil ou s'ils ne veulent pas les mettre, mais ils sont de plus en plus petits et je ne sais pas si c'est remboursé par certains programmes d'assurance, mais il faut autant que possible déceler et corriger les troubles auditifs avec le vieillissement.
Vous avez parlé du rôle du diet, le diet Mediterranean diet. C'est quoi le rôle des suppléments, des vitamins? Est-ce que ça peut nous aider de prendre quelques suppléments aussi?
Alors, la réponse courte, c'est non. Okay. Il y a plusieurs exemples de problèmes associés à des surplus de certaines vitamines quand on n'est pas déficient. L'acide folique, c'est celle qui va surprendre les gens parce qu'on en donne aux femmes enceintes. C'est dans les céréales, ici au Canada, justement pour prévenir les déformations de la moelle épinière de la colonne chez les bébés. Mais trop d'acide folique peut causer de la confusion. Et trop de vitamine D peut causer des problèmes dans les os. Alors, le message actuel, c'est que si vous n'êtes pas déficient dans une certaine vitamine, vous n'avez pas besoin de suppléments.
Ça, je pense que ça va être un bon web émission à faire parce que je crois que c'est un sujet dont on ne sait pas. On entend beaucoup de promotions à propos des vitamines, mais on ne connaît pas assez. Je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. OK, j'aimerais parler du rôle de l'alcool parce qu'il y a beaucoup d'informations maintenant qui disent qu'on ne peut pas avoir plus qu'un verre de vin par jour. Les Québécois, on sait, on aime notre vin. Alors, qu'est-ce qui arrive dans un cas comme, je vais me prendre comme exemple, je me tiens en forme, je marche mon chien 3 fois par jour, je suis très engagée auprès de mon travail, je contrôle mes comorbidités, mais j'aime mon vin, OK? C'est quoi mon risque? Parce que pour dire que je peux avoir juste un verre de vin par jour, honnêtement, quand on est avec des amis, les fins de semaine, c'est plus qu'un verre. C'est quoi les risques réellement?
Alors, c'est en débat actuellement. Mais oui. S'il n'y a pas d'autres raisons de diminuer la consommation d'alcool, si vous avez, comme vous avez défini, un bon contrôle des facteurs de risque et d'autres bonnes habitudes de vie, un verre de vin par jour en moyenne est tout à fait accepté. Je vous rappelle qu'on a déjà fait des études en France, à Bordeaux, sur le vin rouge. Et c'était vraiment frappant, comme quoi un verre de vin rouge par jour en moyenne était protecteur par rapport à zéro vin et protecteur par rapport à trop de vin, qui était considéré comme 4 ou plus par jour pour la région de Bordeaux. Et ce n'était pas commercial, ça, comme étude. Il y avait un élément antioxydant dans le vin rouge de Bordeaux qui s'appelle le résorcinol. Et si on donne une pilule de résorcinol, ça a été essayé, ça n'a pas d'effet protecteur. Il faut l'ensemble du vin. Mais tout ça pour dire que l'alcool peut avoir un effet positif en modération. La modération, c'est relatif à vos facteurs de risque personnels, comme vous l'avez souligné.
Vous avez mentionné beaucoup de liens aujourd'hui pour participer dans les recherches. Alors, nous allons mettre tous ces liens-là sur notre site web. Nous avons une section qui s'appelle ressources. Alors, les gens, s'ils veulent participer aux recherches, peuvent aller là, puis ils vont trouver toutes les informations. Dr. Gauthier, merci beaucoup pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui.
De plaisir. Au revoir tout le monde.
Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur la démence de McGill qui est financée par des dons privés. Alors, si vous voulez en savoir plus de notre programme ou si vous voulez faire un don, s'il vous plaît, visitez-nous à mcgill.ca @démence. Si vous voulez être informé pour les prochains épisodes de McGill à vos côtés ou pour en savoir plus de notre livre et d'autres initiatives que nous avons, s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer un email à dementia@mcgill.ca et vous allez être sur notre liste pour avoir des infolettres. Alors, merci d'avoir assisté à McGill à vos côtés aujourd'hui.